Mardi 16 octobre, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous pour ma dernière émission, en fait, de cette année, de cet an 2012, puisque je quitterai, en fait, à partir de 18h30 pour aller en congé de maternité. Et oui, la belle nouvelle dans ma vie. Et pour me remplacer d'ici la fin de l'année, eh bien, ce sera en alternance Raymond Poirier et Jean-Pierre Gay qui se succéderont et qui feront, j'en suis convaincue, un excellent travail à la barre de l'aérospatiale. Pour cette dernière émission, j'ai décidé de me gâter puis d'avoir beaucoup d'intervenants. Donc, on rencontre Geneviève Pelletier, qui est co-commissaire avec Fnoun Tara de l'exposition « Au-delà des possibles » qui est présentée dans l'autocar des arts visuels dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres. On discute avec Jean-Pierre Labiot, qui est conservateur aux arts décoratifs et aux expositions du Musée national des beaux-arts du Québec, qui va nous présenter art et nature au Moyen-Âge. En fin de semaine, gros événement organisé par Folliculture, Extase, la vie et autres pratiques extatiques. Pour en discuter, Céline Marcotte et Fnoun Tara de cet organisme. Raymond Poirier nous fera sa revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Pas trop stressé à l'idée de reprendre l'émission à compter de la semaine prochaine?
Un peu? On le cachera pas, un peu. La barre est haute.
Ben non, je suis certaine que ça va très bien aller. C'est pas comme si tu n'avais pas de l'expérience. Hein? Alors Raymond, peut-être un petit sujet comme ça là, pour nous tenter?
On va faire un petit suivi sur une nouvelle qu'on avait lancée la semaine dernière autour de Mounir Fatmi.
Oh, ok. Donc ça fait des petits tout ça. Et cette semaine, Simon Roy est là avec nous. Bonjour Simon.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ben oui, très bien.
T'as entendu la semaine dernière, Raymond, c'est improvisé être ta personne?
Ah non, j'ai pas écouté le podcast encore.
Ah bon, ben Raymond a fait ton travail, à tout le moins pour présenter l'artiste qu'on écoutait.
C'est sûr qu'il a bien fait ça.
J'en suis certaine. Cette semaine, Simon, tu nous as fait un choix de compilation.
Oui, c'est ça. Ben je pense que inconsciemment j'ai été inspiré par Québec en toutes lettres. C'est une compilation, c'est assez spécial. C'est un genre d'hommage à un auteur que j'adore, c'est Franz Kafka. C'est publié par l'étiquette Hayes Net Label. C'est une étiquette qui nous vient de la Biélorussie. Puis c'est ça, ils ont une série, cette étiquette-là, qui s'appelle Sound Interpretations. Donc, eux autres, ils donnent un auteur, puis ils demandent des artistes de collaborer des pièces qui peuvent bien aller, donc, avec les lectures... en lien avec cet auteur-là. La prochaine compilation va être sur William Gibson. Il y a aussi Albert Camus, Saint-Exupéry, Hemingway. Donc, toutes sortes d'auteurs comme ça. Puis ça fait des bonnes trames sonores en lisant. Je trouve que ça apporte un petit plus. C'est rare qu'on ait des trames sonores pour la littérature.
Effectivement.
Donc, cette étiquette-là s'en sert. Puis je trouve ça merveilleux comme idée. Donc, c'est la compilation, le titre de la compilation, c'est « Dedication to Franz Kafka ». Je vous ai choisi quatre artistes. On va entendre la première pièce par Room Dark, un artiste de la Biélorussie. Puis, c'est sensu de ça, on a le collectif Generation Squee. Puis, c'est suivi de Science Theorem, puis avec London DC. Puis enfin, on finit avec Kritev versus Ban. Vous allez voir quatre artistes vraiment intéressants. Puis, si vous êtes amateur de Kafka, je trouve que ça va parfaitement bien avec la compilation.
Donc, si on le connaît, on saura reconnaître les ambiances.
Oui, ça peut peut-être donner le goût de le lire aussi.
Effectivement. Simon Roy, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Puis, on se reparle... après la pause de maternité.
Effectivement, puis de toute façon, toi, tu continues quand même à être là jusqu'en janvier.
Oui.
Donc, on t'écoute aussi à Web Musique le dimanche à 21h. On écoute un premier extrait de l'album Dedications to Franz Kafka sur les ondes de CKRL.
После беспокойного сна Грегор Запса обнаружил, что превратился в гигантское насекомое.
C'était un extrait de l'album Dedication to Franz Kafka, suggestion, sélection de Simon Roy. Vous pouvez trouver d'ailleurs le lien pour le téléchargement gratuit sur le site l'aérospatiale.wordpress.com, ainsi que l'émission en balado-diffusion et les liens pour les articles que Raymond s'apprête à nous présenter dans sa revue de presse.
Et Julie, le premier article, ça vaut la peine justement d'aller sur le blog, d'aller le lire. C'est le journal Le Figaro qui, suite justement à la controverse dont on a parlé la semaine dernière autour de Mounir Fatmi au printemps de septembre à Toulouse, eh bien, on profite pour faire un retour sur, d'un côté, les controverses qu'a suscité Fatmi récemment et dans les dernières années, et parallèlement sur d'autres controverses en lien avec l'islamisme, avec certaines franges de l'islamisme. Parce qu'on s'entend, c'est pas une controverse généralisée, c'est donc des groupes spécifiques qui sont choqués par certaines de ces expositions. Et d'ailleurs, dans l'histoire très récente, outre le printemps de septembre, il y a une autre installation qui a été retirée tout récemment d'une rétrospective de 25 ans de créativité arabe par l'Institut du monde arabe de Paris. C'est une exposition, c'est une œuvre, en fait, une installation vidéo qui s'appelait Sleep, où on y voyait Salman Rushdie y dormir pendant 6 heures, donc un peu à l'image du héros underground du film d'Andy Warhol. Donc c'est un peu un détournement de cette œuvre-là. Et considérant le propos, donc l'Institut du monde arabe a préféré la retirer avant même l'ouverture là, de l'exposition rétrospective sur la créativité arabe.
Oui, parce que je pense qu'il y avait une fatwa là, qui avait été lancée contre Salman Rushdie il y a quelques années.
Effectivement,
qui est encore... Le personnage est assez controversé de base.
Et donc ça montre en fait juste dans les derniers mois, donc déjà deux situations où Mounir Fatmi se retrouve face à des controverses, face à ce que certains pourraient percevoir comme étant aussi une certaine forme de censure. Cela dit, Le Figaro rappelle que les controverses entourant l'artiste ne se limitent pas non plus à l'islam. Il y a une œuvre notamment qui s'appelle Glaçons d'eau bénite, donc des glaçons d'eau bénite qui trempaient dans un verre de whisky, qui lui avait valu des insultes de catholiques. Et ça, il l'avait présenté en 2006 à la Biennale de Venise. Alors, il y avait aussi une autre controverse à Dubaï avec une œuvre qui s'appelait Les Printemps perdus, où c'était comme dans le fond des drapeaux qu'on voyait, mais plutôt que d'être des drapeaux, c'était des balais qui s'y retrouvaient. Donc ça avait été également ça avait également fait réagir. Il y en a quelques autres comme ça dans la liste. Et donc Le Figaro essaie de voir, est-ce qu'on parle de censure, est-ce que c'est des controverses, est-ce que ce sont des controverses justifiées, et on essaie d'étayer aussi avec d'autres exemples, donc pour essayer de saisir et de comprendre peut-être la relation d'un côté entre les artistes qui essaient peut-être à certains égards de provoquer certaines franges de cette religion-là, et parallèlement peut-être aussi des réactions excessives de la part justement de certains groupes islamiques. Alors c'est une lecture assez intéressante, et si ce n'est que justement pour nous faire prendre conscience aussi, si on ne le savait pas déjà, que Fatmi visiblement dans sa création n'a pas peur non plus d'essayer de bousculer un peu certains tabous et certaines limites dans différents contextes en lien avec justement la religion et l'État.
Donc un dossier sur l'aérospatiale.wordpress.com.
Et sinon, on parle de Picasso, de Matisse et de Monet. Je trouvais ça intéressant, on reste dans Le Figaro. C'est un cambriolage qui a eu lieu au Kunsthal Museum à Rotterdam. 7 toiles de grands peintres qui ont été dérobées. Pas les toiles les plus chères du musée. Et c'est une nouvelle salle qui venait d'être introduite. Et semble-t-il, en fait, on se croirait dans un film d'enquête sur l'art, dans cette situation-là, dans la mesure où il y aurait eu de l'information à l'interne pour savoir où étaient les pièces, comment réussir à y accéder, etc., etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va un peu plus loin que ça, parce qu'il y a toujours la grande question, mais oui, c'est bien beau voler une pièce, mais par la suite, comment on fait pour faire de l'argent avec ça? Parce que notamment, dans le cas de ces 7 œuvres-là, on mentionne du côté du marché de l'art, mais regardez, c'est des pièces qui sont déjà bien connues, c'est pas des pièces méconnues de ces peintres-là. C'est des pièces qui sont facilement identifiables. Donc, ça va être extrêmement difficile de réussir à les vendre sur le marché de l'art. Et donc, nécessairement, ça amène les enquêteurs à dire, c'est peut-être d'autres axes. Peut-être d'un côté, donc des collectionneurs désireux de les garder chez eux dans l'anonymat le plus complet, ou parallèlement, un kidnapping d'œuvres d'art contre rançon. Alors, dossier à suivre. Il faut dire que certaines œuvres, on parle de Monet, peuvent valoir quand même assez cher. D'ailleurs, on rapporte dans les médias qu'un enquêteur, un encanteur qui prédit qu'une œuvre de Claude Monet de la série Water l'Élise pourrait se vendre 30 et, à 50 millions de dollars dans une prochaine enchère, donc une toile de 1905. Donc ça, ça nous même, rappelle que ça peut valoir somme toute.
Et ça peut valoir pas mal plus cher parce qu'un Picasso qui avait été vendu 200 millions ou quelque chose comme ça.
Il y a des records qui sont de temps à autre battus. Dans ce cas-ci, même juste une œuvre plus modeste, ben déjà ça rapporte quand même un bon prix au bout du compte. Là. Et en terminant, deux nouvelles peut-être un peu plus triste, notamment une figure majeure de l'art naïf, le peintre haïtien Préfète Dufaux, qui est mort le 6 octobre dernier. Un artiste qui était l'un des fers de lance du mouvement de l'art naïf, l'un des premiers d'ailleurs à avoir été exposé hors d'Haïti. Il a rejoint plusieurs pionniers d'ailleurs, comme Hector Hippolyte, Philomé Aubin, Castéra Basile et plusieurs autres. Et donc voilà, il a perdu la vie récemment. Et sinon, un peintre belge, Raoul de Keyser, qui est également décédé récemment. Il a été reconnu relativement tardivement à l'international autour des années 2000, mais reste qu'il est considéré comme l'un des grands peintres belges contemporains. Il fait partie des grandes collections d'art du MoMA, du MoCA et entre autres musées. On vraiment un artiste important. Et encore là, dans les deux cas, des rétrospectives disponibles notamment via Le Monde et via le Journal des Arts.
Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Et je te souhaite bon courage et bonne chance pour tes prochaines émissions.
Oui, et en fait, je dis aux auditeurs, auditrices, ben à la semaine prochaine.
Ben oui, puis je te remercie grandement pour ce service que tu me rends. On s'en va en pause audio, on écoute Generation Squee. Au retour, on discute avec Céline Marcotte et Fnoun Taha. C'était une pièce de Generation Squee, une suggestion de Simon Roy, que vous pouvez d'ailleurs écouter à l'émission Web Musique les dimanches à compter de 21h. On est mardi à compter de jeudi, et ça jusqu'au 21 octobre. Il y a quand même un gros événement en art visuel ou dans les arts à Québec qui se prépare, et c'est l'événement Extase, la vie et autres pratiques extatiques, qui est présenté par Folliculture. Avec nous pour en parler, Céline Marcotte. Bonjour.
Bonjour.
Et Fnoun Taha.
Bonjour.
Bonjour,
Julie.
Vous avez une grosse fin de semaine en perspective, hein?
Oui, ça s'en vient bientôt, on a hâte. On est dans les préparatifs.
Eh oui, hein, j'imagine. Mais là, ça, c'est le troisième volet hein, d'Extase. Là, il y avait eu Extase au printemps, il y avait une série de performances, puis avant
à l'automne,
ça,
oui.
C'était à l'automne dernier, oui.
Oui, il y avait eu Extase la bouche ouverte et on y voit la lumière, puis Extase un chien écrasé qui scintille.
Avec oui, ça, c'était la série de performances, je me rappelle bien. J'ai déjà posé la question, Céline Marcotte, à l'automne dernier, probablement, ça fait quand même déjà un an. Pourquoi le thème de l'extase? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler là-dessus?
Bien, on voulait travailler sur le fait que les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont très intéressés par la spiritualité puis par la religion. On voulait essayer de parler de ces thématiques-là, mais de l'en parler d'une façon autrement. Donc, on a décidé de l'aborder par la thématique de l'extase. Donc, d'essayer de voir en quoi on peut se sortir de soi-même.
Quels sont les différents chemins vers l'extase?
Vers l'extase.
Et c'est quoi pour vous, si je vous pose la question, là, chacune, c'est quoi pour vous l'extase? Parce que, tu sais, c'est souvent, c'est des concepts un peu difficiles à définir ou qui sont très personnels aussi.
Ben, je te dirais que, mettons, l'événement est un bon exemple parce qu'il montre vraiment plusieurs définitions de l'extase, parce qu'on peut atteindre l'extase par un état intense de joie, de douleur également, de grosse introspection. Fait que je pense que c'est une définition qui est très personnelle, puis l'événement permet d'aborder vraiment toutes ces couches-là d'interprétation. Là. Puis si moi, tu me demandais la question de l'extase, je pense que l'événement déjà ne suffirait pas.
À y répondre, hein? Oui. Pour toi, Céline, j'imagine que c'est la même chose aussi.
Oui, c'est d'être dans un état autre, atteindre un état autre, des fois qui peut être douloureux aussi, mais qui peut... Le chemin peut être douloureux.
Oui, effectivement, j'imagine. Dans le titre, hein, la vie et autres pratiques extatiques, donc vous dites, vous, la vie
est une pratique extatique, oui.
C'est ça.
On voulait un peu le traiter de façon ironique, de façon...
moins grave, puis surtout ce qui nous intéressait avant tout, c'est aussi de parler d'une certaine réalité, là. C'est pour ça qu'on a titré ça « La vie », parce que l'extase, on le sent, mais parce qu'on est surtout vivant. Donc on s'est dit pourquoi pas aborder ça avec la vie, puis sauf que dans la vie de manière générale il y a différentes pratiques, puis finalement l'événement va venir présenter ces nouvelles pratiques,
des pratiques comme des images de manière de vivre aussi également.
Tout à fait, hein? Des manières de vivre, des manières d'être, des manières de se penser à l'intérieur d'un monde.
Si on parle justement des événements, parce que là, il y en a beaucoup, là. Je vois même...
Le
petit programme de FNUN, il est assez épais. Allons-y dans l'ordre. Par exemple, le 20 octobre, ça c'est samedi prochain.
Dans l'ordre?
Dans l'ordre où je l'ai lu, là, dans un certain ordre, disons, dans ce cas-là. Il y a Amélie Poirier qui présente La jeune fille et la morve, un spectacle multidisciplinaire où elle conjugue la danse, le théâtre et la performance.
C'est surtout, je dirais, du théâtre et de la performance. Et on prononce bien La jeune fille et la morve.
Oui.
Et non pas La jeune fille et la morve, elle est partie de La jeune fille et la morve. C'est une réflexion sur son travail en psychiatrie. Sa carrière en psychiatrie. Donc, c'est sur la danse, parce que quand elle était jeune, elle dansait, et aussi sur ses problèmes de santé mentale. Mais comme son adolescence et son enfance a été basée sur la danse, donc c'est tout son cheminement qu'elle a suivi, en tant que danseuse, mais aussi par rapport à sa névrose.
Oui, puis je voulais juste préciser que c'est une artiste qu'on fait venir de France également. Fait que, voilà.
C'est une jeune artiste, oui.
Oui, non, c'est ça, j'ai vu, parce qu'on regarde Amélie Poirier, on aurait pu croire qu'elle est québécoise, et là, on voit qu'elle est française, puis française, pas facile, j'ai de la difficulté avec mes genres, puis on présente aussi ce spectacle-là comme une espèce de monologue un peu intime, mais qui prend pas nécessairement toujours la forme du verbe, hein, qui passe beaucoup par le corps.
Oui, ben ça passe par le corps, puis on tenait aussi à souligner que le spectacle d'Amélie, malgré tout qu'elle parle quand même de choses douloureuses, ça reste un spectacle ironique sur sa maladie, à la fois loufoque, loufoque, intrigant. C'est vraiment, on aborde plusieurs facettes d'émotions, donc c'est tout intéressant. Puis on avait un peu peur que ça fasse un peu mélodrame, là, mais pas du tout. Là, je pense que n'importe qui pourra y trouver son compte justement. Puis oui, elle est seule sur scène, fait que c'est une sacrée interprétation qu'elle va nous livrer effectivement.
Et ça, c'est samedi à 20h au centre Aline Lebel. Donc c'est à l'école de danse.
C'est ça, l'école de danse. Puis on va avoir les billets qui sont disponibles à Folliculture, donc au 280 rue Saint-Vallier-Est. Et également, le soir du spectacle, on pourra également les vendre.
Et dans les événements aussi, il y a des expositions, un endroit que vous appelez le local.
Oui.
Et là, l'adresse, c'est quoi? C'est 754 Saint-Joseph. Moi, ça ne me dit rien. C'est où, ça?
In the middle of nowhere. Non, depuis le dernier événement qu'on a fait depuis 12 heures, on a décidé, comme Folliculture, on n'a pas de lieu et qu'on expose toujours dans des lieux...
Empruntés, qui
peuvent servir notre thématique aussi. On a décidé d'appeler ça le local. Donc, la dernière fois, le local, c'était sur à un autre endroit. Donc, au 754 Saint-Joseph, c'est un local commercial qui était alloué et que qu'on a réservé pour l'événement, tout simplement.
OK, tout simplement. Là, donc, on cherche l'adresse, on cherche pas là, d'enseigne
non.
Ou autre.
Non, c'est ça. Puis, c'est proche, pour ceux qui veulent, c'est proche du métro. C'est vraiment au fond de la rue Saint-Joseph.
Plus à l'est.
Ah, OK, c'est
du
genre, on la fera pas au complet.
Non, c'est ça.
Et pour cette exposition-là, vous présentez le travail de 4 artistes. Annie Brunette, Tania Saint-Pierre, Anne-Marie Michaud et Pierre-Luc Vaillancourt. Oui. Qui a fait le commissariat de ça? Qui a décidé?
C'est le comité de programmation de Folliculture qui fait le commissariat en général.
En
moyen collectif.
De manière plus générale, Folliculture lance régulièrement, enfin, dans le cadre de programmation comme celle-ci, on lance un appel de proposition. Puis le comité de programmation a fait une sélection de ces artistes-là. Puis les 4 artistes que tu as cités ont été sélectionnés parmi tous les dossiers. Et il y a également Chélanie Bodin-Quentin qui nous présente la boîte à cris qui est conçue à l'intérieur de l'exposition.
Ah oui, c'est ça, au Jardin Saint-Roch.
Oui, c'est ça. Qui va être présenté au Jardin Saint-Roch.
D'ailleurs, la boîte à cris, c'est... on peut aller y crier, j'imagine.
Oui,
hein?
Oui. C'est exactement ça.
C'est ça. On invite le public à venir entrer dans la boîte et pouvoir crier tout son sou sans déranger les voisins ou sans déranger l'équidame autour.
Oui, parce que souvent, hein, dès qu'on se laisse aller à une émotion un peu plus forte, on a l'impression de déranger. Hein?
C'est ça.
Ouais,
puis l'extase, on voulait que le monde, le public puisse aussi intervenir à sa manière. Fait que la boîte à cris est vraiment une belle opportunité pour ça.
D'explorer l'extase.
Ben oui, de le vivre soi-même, oui, là, pas juste observer celui des autres.
Puis juste pour dire, cher auditeur, on a le vernissage qui est prévu justement de ces artistes-là jeudi qui s'en vient à 19h, si je ne me trompe pas.
Ah oui, donc c'est dans la soirée de lancement qui aura lieu au local à compter de 19h jeudi.
C'est intéressant de voir... la façon dont les artistes répondent à une même thématique et c'est quoi la vision de chacun par rapport à la thématique de l'extase, puis quelle réponse ils apportent à notre demande.
Ah, parce que ce sont pas des œuvres qui existaient déjà, là, donc les artistes ont soumis des propositions.
Oui, voilà, c'est ça qu'on choisit. Puis on essayait de présenter une exposition qui se tient et que les œuvres peuvent se répondre l'une l'autre.
Puis, il y a différents médiums. On peut voir de la peinture, de la vidéo, des installations. On a également José Landry Sirois qui travaille à l'intérieur de ce local-là. Puis, elle, c'est une intervention en direct. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pendant 4 jours, elle va être là. Puis, elle va monter son œuvre devant le public. Elle va la faire, en fait. Fait que c'est à la fois une performance et, au final, ça va être une œuvre en art visuel. Là.
Puis, c'est intéressant quand même parce que quand j'ai vu que José Landry Sirois serait là, je me disais, effectivement, c'est logique, c'est cohérent, ça s'inscrit comme son travail, mais de l'avoir créé. Oui. Hein, parce que quand on voit ces petits signes, quand on voit ses œuvres, on s'imagine comme une frénésie. Donc, on va pouvoir voir directement.
Puis, José, c'est vraiment une invitation qu'on a fait parce qu'on trouvait que son travail, justement, s'inscrivait bien dans la thématique. Puis, elle va être là pendant toutes jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Elle est là de midi à 5h. Puis, les gens peuvent aller l'avoir travaillé ou discuter avec elle puis parler de ces projets. Puis je veux spécifier que l'exposition, cette exposition-là au local, se poursuit jusqu'au 28 octobre.
Oui, c'est vrai.
Parce que l'événement dure 4 jours, mais il y a 2 expositions qui se poursuivent, une jusqu'au local jusqu'au 28 octobre et à l'exposition de l'œil de poisson jusqu'au 18 novembre.
Exactement, donc avec Marie-André Cormier et Frédéric La Liberté. Oui. Est-ce que c'est Folliculture d'ailleurs qui a choisi ces artistes-là pour l'œil de poisson?
Oui, on a eu cette belle collaboration avec l'œil de poisson qui a accepté de les présenter. Et donc elles ont fait partie de cette sélection-là. Puis je vous invite parce que ça va être vraiment quelque chose. Là. Je veux pas comme donner le punch, là, mais on a 2 artistes qui travaillent d'une manière vraiment très opposée sur l'extase. Fait que ça vaut la peine d'aller voir.
Donc pour confronter un peu les regards.
Tout à fait. Oui.
Il nous reste peu de temps, puis une performance quand même dont j'ai envie de parler. Oui. Parce que là, on a encore une fois, je pense, la grande visite avec John John.
Oui, c'est un artiste français qu'on a invité. John John, il travaille à Berlin. Il a un travail en studio, on peut dire en atelier de...
Ben en fait c'est quelqu'un qui travaillait à la base sur toutes les modifications corporelles, donc piercing, branding, donc se faire brûler la peau, etc. Donc il baignait beaucoup dans ces milieux-là et en parallèle il a développé en fait une pratique de performance vraiment intense là. Puis il viendra dans le cadre d'Extase Pratique présenter une performance qui s'appelle The Two of Us, où là vraiment il va frôler des états extatiques. On va pas dire c'est quoi, mais ça va être quelque chose aussi.
Oui, ça risque d'être très, très intense. Ça, c'est vendredi 19 octobre à 20h. Et là, c'est au 758.
À côté du local. On reste dans le même coin.
Oui, oui. D'ailleurs, John John aussi fera une conférence, je pense, le lendemain.
Oui, lendemain à la JT sur son travail de modification corporelle aussi. Il fait du tatouage aussi, c'est un tatouage professionnel.
Oui, c'est ça, il est vraiment issu comme des milieux plus underground.
Oui. C'est ça, oui.
Puis vous avez organisé aussi une table ronde, Extasez-vous, qui est animée par Michel Marcoux et Anne-Marie Bouchard. Oui. Là, vous riez, là, ça...
Oui, on rit. On frétille de voir le résultat. Là.
On essayait de faire une table ronde un peu revisitée. Donc, les gens ont 3 minutes pour venir donner soit leur idée sur l'extase, ce qu'ils pensent de l'extase, ou venir parler de leur expérience extatique. Et ils ne devront pas dépasser 3 minutes.
Et là, il y a plusieurs intervenants. Oui. Je pense qu'il y en a plus d'une dizaine. Je termine en grammes, extase emportée aussi en fin de semaine.
Qui fait partie, et programmation film et vidéo. Mais si vous voulez voir, télécharger le programme, c'est folliculture.org.
Bon, voilà, j'allais demander justement l'adresse plus spécifiquement. Donc, Céline Marcotte, merci beaucoup.
Merci à toi.
Fununta, merci beaucoup.
Merci.
Je vous souhaite bon travail d'ici en fin de semaine, puis j'invite les gens à y aller en grand nombre, là, parce que c'est vraiment carrément un festival là, de l'extase qu'on a vraiment sur 4 jours. On s'en va en pause et au retour, on discute avec Jean-Pierre Labiot.
Le Palais Montcalm présente les Swingle Singers le samedi 20 octobre. Phénomène international de la musique a cappella, ce septuor britannique lauréat de 5 Grammy interprète aussi bien des chansons de Björk, Bach que des Beatles ou de Sting. Soyez éblouis par leur virtuosité et leur façon inimitable de chanter. Les Swingle Singers, la promesse d'une soirée musicale inoubliable. $20 pour les 30 ans et moins, détails au palaismontcalm.ca.
Voici les livres qui ont marqué Pantoute.
Des incontournables et inclassables du polar.
La fée carabine de Daniel Pennac.
Le parfum de Patrick Suskin.
La chair disparue de Jean-Jacques Pelletier.
Pars vite et reviens tard de Fred Vargas.
Pantoute, votre libraire depuis 40 ans.
Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. 1 heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut se demander quoi de plus?
Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre.
L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu.
Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard.
Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P.
Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Au programme musique trad faux contemporain, blues de tous les temps pour votre plus grand agrément. En compagnie de Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL.
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com.
Vous écoutez CKRL 89.1, Québec.
Il est 18h, précisément, on entame cette deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale. Gilles Gagné, toujours avec vous, accompagné de Jacques Gignac à la mise en onde. Et on se déplace, à tout moins psychologiquement, au Musée national des Beaux-Arts pour discuter de l'exposition Art et nature au Moyen-Âge avec Jean-Pierre Labiot, qui est conservateur aux arts décoratifs et aux expositions et qui est coordonnateur de l'exposition pour le musée. Bonjour, Monsieur Labiot.
Oui, bonjour, Madame Gagné.
Ça va bien?
Oui, très bien, merci.
L'exposition est commencée depuis déjà deux semaines, je crois?
Oui, c'est ça. Ça fait une quinzaine de jours que l'exposition est ouverte au public.
Et elle est populaire, hein?
Oui, ça marche assez bien, effectivement. Enfin, on est content. Les gens réagissent très bien à l'exposition. On a un public qui semble fort intéressé par les pièces qui sont présentées.
Et cette exposition-là, elle est réalisée en collaboration avec le musée Cluny à Paris. Et c'est quand même une collaboration assez exceptionnelle parce que c'est la première fois qu'ils organisent une exposition en dehors de leur mur, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est la première fois qu'ils font sortir des œuvres de leur mur, en fait, sous forme d'exposition. Ils font souvent des prêts en France et aussi dans le reste de l'Europe et dans différents pays du monde. Mais une exposition au complet, c'est la première fois qu'ils en font circuler une. Et on a été très privilégiés et très chanceux de pouvoir avoir cette exposition qui regroupe environ 150 œuvres parmi des chefs-d'œuvre de leur collection.
Et comment est-ce que vous avez réussi justement à avoir cette exposition-là, à avoir cette collaboration-là avec le musée?
En fait, vous savez, ce sont les directeurs d'exposition des musées qui se rencontrent chaque année, enfin, ou des fois deux fois par année, pour parler de leurs projets. Et en fait, c'est Madame Ouellette, qui est la directrice actuelle, Madame Lynn Ouellette, qui a fait les premiers contacts avec Marie-France Cochedeux, qui est secrétaire générale du musée de Cluny. Et en discutant de possibilités d'exposition, Marie-France Cochedeux a finalement proposé à Madame Ouellette une exposition d'art médiéval pour le Musée national des Beaux-Arts du Québec. Ce qui fait que Lynn Ouellette a sauté sur l'occasion pour prendre cette exposition et effectivement nous sommes ravis de pouvoir la présenter à Québec et au public québécois.
Et ça a dû quand même, là je parle peut-être un peu de logistique, là, mais ça a dû être toute une histoire de faire traverser ces œuvres-là, là, de faire traverser l'Atlantique, toutes les précautions qui doivent être mises de l'avant également.
Oui, effectivement, mais en fait, vous savez, la logistique la plus compliquée a probablement été pour le musée de Cluny, qui est un tout petit musée, c'est dans un hôtel particulier du 15e siècle, et en fait, eux ont dû, faire la mise en caisse dans leur propre institution, ce qui a été assez compliqué, parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques que nous avons ici. Beaucoup de caisses se déplacent à la main. Enfin, c'était très compliqué pour eux. Quant à la traversée comme telle, c'est sensiblement la même chose, ouais, que faire traverser des tableaux. Ça passe par par des avions
mobilisés, en fait. Tout ça.
Oui,
si je reviens à l'exposition en général, art et nature au Moyen-Âge, si je me trompe pas, c'est une thématique qui a été inspirée par le Québec.
C'est une thématique qui a été surtout inspirée par l'intérêt de la nature pour le public actuel, en fait, et pour le public français, parce que en réalité, il y a un parcours à l'intérieur de l'exposition permanente du musée de Cluny qui traite justement de ce rapport des arts à la nature, et ça a été en fait développé, cette thématique a été développée pour faire une exposition plus importante, qui est présentée actuellement à Québec, effectivement.
Et cette idée-là, justement, de nature dans l'art du Moyen-Âge, c'est un peu comme un thème transversal là, qui traverse toutes les époques.
Oui, en fait, l'exposition s'intéresse surtout à la période de production entre le 10e et le 15e siècle, mais elle reprend, enfin, les premières œuvres datent du 2e, 3e siècle, c'est-à-dire on est encore dans l'Antiquité. Une première section nous montre les influences, justement, de l'Antiquité sur l'art médiéval, des influences qui vont se marier aux influences barbares, enfin des peuples que les Romains qualifiaient de barbares, c'est-à-dire les peuples germaniques, et à l'islam, puisque à partir du 7e siècle, l'islam va avoir une part dominante dans le bassin méditerranéen, et son influence va se faire sentir jusque en Espagne certainement, et jusque dans le sud de la France. Donc c'est à partir de ces influences générales et du traitement de la nature à l'intérieur de l'art et des différentes formes artistiques que s'est développée l'exposition. La nature, elle est omniprésente en fait à l'époque médiévale. 90% des gens vivent dans les campagnes et la nature n'est jamais très loin du créateur aussi. Il faut donc Dieu est partout et la nature est donc omniprésente dans toutes les productions artistiques.
Mais c'est ça, il y a vraiment comme toute une dimension symbolique là pour à la fois la végétation, les animaux, tout ça c'est quand même très très fort aussi là.
Absolument. Et cette dimension est assez même très bien développée dans le cadre de l'exposition. Donc dans quelques sous-sections, on voit très bien la dimension symbolique qui apparaît et aussi toute cette création d'un bestiaire fantastique qui apparaît à la période romane et qui va perdurer jusqu'à la fin du Moyen Âge.
Et qu'est-ce qui explique d'ailleurs justement l'apparition de ce bestiaire fantastique là? On pense aux licornes, on pense aux dragons, on pense à toutes ces créatures là.
Oui. Alors ce ne sont pas des créations du Moyen Âge. Pour la plupart, la licorne était présente dans l'Antiquité. Symboliquement, elle va revêtir une autre signification au Moyen Âge. Les dragons ou bestelettes viennent de l'Orient principalement, mais ils sont investis d'une autre dimension dans l'art médiéval, c'est-à-dire que alors que dans la culture orientale, le dragon n'est pas associé au diable ou aux éléments maléfiques, dans la culture médiévale, le dragon va porter vraiment cette signification du mal et va être perçu comme un élément négatif la plupart du temps. Mais parfois, certains animaux sont investis de propriétés ambivalentes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mauvais ou bons selon l'usage qu'il en est fait.
Et donc, les amateurs d'iconographie vont vraiment être réjouis là, avec cette exposition-là, justement?
Ah, absolument, parce que c'est omniprésent tout au long de la période médiévale. Donc, on retrouve ces influences, que ce soit au niveau végétal, mais surtout au niveau animal, partout dans les productions qui sont présentées dans l'exposition.
Et d'ailleurs, il y a une autre chose aussi qui peut réjouir un autre type d'amateur ou les mêmes. Enfin, on peut apprécier plus d'une chose dans un objet, c'est vraiment le raffinement des œuvres qui sont présentées. Souvent, on parle Moyen-Âge, période de grande noirceur, mais du point de vue des arts, quand même, c'est assez incroyable, la richesse.
Absolument, ça fait beaucoup réfléchir sur l'idée et les idées préconçues sur qu'on a sur le Moyen-Âge, en fait, qui sont souvent, qui perçoivent cette époque comme une période très sombre, enfin, et obscure de l'histoire de l'humanité, alors qu'en réalité, c'est une époque où il y a un très grand raffinement dans la maîtrise des matériaux, dans la maîtrise même des métaux. C'est surprenant, il y a quelques pièces fondues qui sont d'une qualité exceptionnelle. Il y a évidemment ce travail des émaux qui est particulièrement remarquable, et puis aussi un travail très 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 évident et très très impressionnant qui se fait sur les textiles par la découverte de motifs, mais aussi par des tissages qui sont extrêmement complexes.
Oui, on le voit beaucoup justement à travers des pièces textiles, mais aussi à travers les tapisseries là, qui ont quand même une bonne part dans l'exposition.
Absolument. Mais les tapisseries arrivent de façon un peu plus tardive, donc elles sont vraiment à partir du XIIIe siècle de plus en plus présentes. Elles occupent une place importante dans l'exposition. En fait, il y en a seulement 7, mais qui sont d'assez grande dimension. Et elles nous montrent comment l'art médiéval a évolué justement, enfin dans le cadre des tapisseries que nous présentons, vers une représentation de la nature qui est beaucoup plus réaliste en fait que ce qu'on voit dans la période romane, enfin ou dans la période qui précède le XIIIe siècle. Donc, on a des tapisseries qu'on qualifie de mille fleurs parce qu'elles sont tapissées en fait sur l'ensemble de leur surface de motifs végétaux. Et ce qui est assez fascinant, c'est que tous les motifs végétaux qui composent ces tapisseries sont identifiables aujourd'hui sans aucune difficulté pour un botaniste. Je dirais que pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis pas botaniste, non. Mais dans l'ensemble, c'est assez simple et on reconnaît tous les éléments qui les composent.
Et là, j'ajoute à ça, là, juste pour dire un peu, il y a des ivoires, il y a des vitraux, il y a des enluminures, il y a des pièces d'orfèvrerie également. Si je vous pose une dernière question, Monsieur Labiot, est-ce qu'il y a des objets pour vous qui sont particulièrement porteurs de sens ou qui sont d'une grande importance dans l'exposition?
Oui, je dirais qu'il y a énormément d'objets qui sont extrêmement importants. Je dirais que la pièce qu'on découvre en entrant, qui est cet olifant, c'est-à-dire cette défense d'éléphant sculptée, est quand même assez fascinante par le travail qui est réalisé dessus. Mais en fait, à plusieurs endroits dans l'exposition, on tombe sur des pièces qui nous laissent complètement béat par la qualité technique. Je pense à deux petites pièces que vous avez probablement vues dans l'exposition, qui sont des émaux de pliques. C'est des pièces qui font environ 2 cm sur 2 cm, c'est-à-dire que c'est très petit. Et donc c'est un travail de cloisonné fait avec de l'or et où de l'émail est inséré à l'intérieur de ce cloisonnage. C'est vraiment fascinant la qualité de ce travail-là. C'est tout petit mais vraiment très très impressionnant. Et on retrouve effectivement les tapisseries qui sont fascinantes. Je pense à la vie seigneuriale qui est une des principales tapisseries que nous présentons, ou même cette tapisserie qu'on retrouve illustrant la légende de Saint-Étienne, sur laquelle on retrouve justement ce symbole de la licorne qui va être très présent tout au long de la deuxième partie du Moyen-Âge.
Eh bien, Jean-Pierre Labiot, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci à vous aussi.
Au revoir, merci.
Donc, Art et nature au Moyen-Âge, présenté au Musée national des beaux-arts du Québec jusqu'au 6 janvier. Jean-Pierre Labiot est conservateur aux arts décoratifs et aux expositions. Au musée, était coordonnateur de l'exposition. On s'en va en pause audio. On écoute un extrait de la pièce Kafkaesque Illusions de Science Terran et London DC. Au retour, on discute avec Geneviève Pelletier. C'était un extrait de l'album Dedications to Franz Kafka, une suggestion de Simon Roy. J'en profite pour vous rappeler qu'on peut trouver les liens pour le téléchargement gratuit des pièces de l'émission. Ouais, Simon Roy nous propose toujours de la musique gratuite sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, l'émission est disponible en balado-diffusion. On publie les communiqués de presse pour les expositions et les divers événements. Aussi, ben, vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur Facebook pour avoir des nouvelles un peu plus fréquemment. Voilà, je cherchais mon terme. En ce moment, il y a un événement qui bat son plein. C'est Québec en toutes lettres. C'est un événement littéraire, mais qui a quand même habituellement un pendant là, du côté des arts visuels. Et ce pendant-là est plus spécifiquement ou plus complètement assuré par l'Autocar des arts visuels au-delà des possibles. Une exposition dans le co-commissariat est effectuée par Fnoun Taha et Geneviève Pelletier. Cette dernière est avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Donc, c'est ton deuxième commissariat, toi, pour l'Autocar?
Oui, puis c'est drôle parce que c'est mon deuxième commissariat pour l'Autocar, puis le premier, c'était aussi dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres.
Oui, c'était le Réel Merveilleux, je pense.
C'est ça, sur Borghès. Donc, moi, je trouve toujours que c'est une belle occasion de travailler différemment.
Et d'ailleurs, peut-être, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'Autocar. Peux-tu nous rappeler un peu ce qu'est l'Autocar, sa mission?
Bien, en fait, c'est un autocar qui est équipé pour comme une petite salle d'exposition mobile qui se promène dans les écoles primaires et secondaires de la Ville de Québec, mais aussi tout au long de l'année dans les arrondissements de la Ville de Québec. Donc, ça peut être dans certains festivals ou fêtes de quartier ou autres événements.
On peut appeler là, carrément pour avoir une visite de l'autocar.
On peut appeler pour avoir l'autocar, puis on peut aussi vérifier où l'autocar sera dans un avenir proche, s'il vient dans notre quartier, en allant sur le site web de l'autocar.com.
C'est un
projet de médiation culturelle de la Ville de Québec, puis c'est Manifestation internationale de Québec qui fait la production des expositions, puis tout ça.
Et pour, si on revient plus spécifiquement à Québec en toutes lettres, on sait cette année la thématique est orientée autour d'Isaac Asimov et de la science-fiction. Comment, est-ce que tu connaissais, toi, Fnoun? Est-ce que c'est un écrivain que vous appréciez? Ou?
Ben, en fait, moi, je le connaissais. Je le connaissais un peu, mais moi, c'était vraiment le thème en général de la science-fiction qui m'a accroché. J'avoue, je suis assez fan de la science-fiction.
Ah ouais?
Oui, c'est quand j'ai eu la possibilité de travailler sur le thème, ben, je me suis dit, ah oui, ça va être drôle, ça va être différent. C'est pas un thème qu'on travaille souvent en art visuel.
Non, hein?
D'ailleurs, c'est pas nécessairement évident non plus de trouver des artistes qui ont déjà abordé le thème. Donc ça aussi, c'était comme une autre petite portion qui était comme un défi, dans le fond.
Puis comment est-ce que vous êtes parti justement de cette thématique-là générale pour en venir à l'exposition Au-delà des possibles?
Ben en fait, moi et Fnoun, on a fait quelques rencontres là, où on a discuté. Moi, je suis une fan de science-fiction. Elle l'est plus ou moins, mais c'était bien. Elle avait comme plus le côté art visuel, puis tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini des grands axes de la science-fiction qu'on voulait absolument aborder. C'est sûr que l'Autocar, là, c'est pas une grande salle d'exposition.
Mais non,
donc, on peut pas exposer 25 artistes. Donc, on s'est dit, on va en exposer 4. Puis, on voulait aborder des thèmes clés de la science-fiction, comme les extraterrestres, par exemple. On peut pas passer à côté de ça. On voulait, évidemment, aborder les robots parce que Isaac Asimov, son œuvre, porte beaucoup sur les robots. Et puis aussi, on voulait aborder toute la question des espaces post-apocalyptiques, du futur, des visions du futur.
Parce que ça, c'est souvent très, très présent, là, beaucoup dans le cinéma aussi.
Vraiment. Donc, on a choisi nos artistes en conséquence pour représenter un peu chacun de ces thèmes-là. Il y a deux œuvres qui ont été choisies, qui avaient déjà été faites, que moi, j'avais vues au cours de mes vagabondages dans les années précédentes.
Celle de
Martin Bureau, puis de Patrick Bernatché. Bernatché, d'ailleurs, je l'avais noté dans un petit calepin, puis je m'étais dit qu'un jour, j'allais faire quelque chose. Là, si je travaillais sur la science-fiction, un jour, j'allais exposer cette œuvre-là.
D'ailleurs, vous avez choisi de... Bon, j'ai pas noté le nom. Quelle œuvre vous avez choisi
de
présenter,
Patrick Bernatché? C'est le vidéo qui s'appelle Pluton.
Ah, voilà.
C'est un vidéo qui a été présenté dans le cadre de la Triennale à Montréal en 2010, je pense. C'est vraiment là toute l'esthétique de la science-fiction un peu à la Stanley Kubrick, 2001 Odyssée de l'espace.
Ouais, ouais, ouais.
C'est comme un peu un hommage d'ailleurs. C'est un peu étrange, c'est très léché, la musique aussi, toutes les codes du film de science-fiction se retrouvent dans ce vidéo-là. Donc, c'était vraiment parfait.
On l'avait vu aussi en 2008 à Québec, à l'œil de poisson, avec Chrysalide, oui, ces vidéos de neige.
Oui,
là, à
l'intérieur,
là.
Tout à fait.
Il y a effectivement ce côté un peu qu'est-ce qui s'est passé? On est dans un après, ouais. On se questionne.
Oui, puis en fait, ce vidéo-là, ça, c'est la version vraiment très courte, mais ce vidéo-là, maintenant, dure 10 minutes. Il continue de travailler dessus. C'est comme un work in progress. Donc, il n'est pas fini encore. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va finir, mais ouais.
Puis tu disais aussi qu'il y a Martin Bureau. Vous avez choisi From China with Love numéro 11.
Oui.
Pourquoi celle-là plus spécifiquement? Parce que quand même, une assez grande série.
Bien, premièrement, c'est sûr que dans l'autocar, on peut pas mettre Martin Bureau travaille en très, très grand format. Là, on était limité dans les formats. On était limité aussi parce que Martin, évidemment, lui, il y a beaucoup de collectionneurs qui collectionnent ses œuvres. Il n'y en avait pas tant que ça qui restait de la série. Mais c'est drôle parce que moi, en regardant son catalogue, cette œuvre-là m'avait accroché parce que je trouvais qu'il y avait vraiment, avec Fnoun, ça, on en avait parlé, tout le côté, justement, post-apocalyptique.
Ben oui, parce que c'est un dragon, hein, qui traîne un cargo.
C'est comme et c'est ça, puis il y avait comme un peu une référence à Godzilla, tu sais. Tu sais, les espèces de monstres qui représentent toujours comme le mal ou tout ce qui est négatif, comme une métaphore de la noirceur, puis tout ça. Puis là, en fait, c'est comme une espèce de dragon chinois, espèce de bébite, de monstre qui pousse un gros cargo de denrées, dans le fond, là, de container. Puis, c'est toute une réflexion, lui, c'est quand il est revenu d'un voyage en Chine, ça l'a beaucoup marqué, là, tu sais, comme la technologie qui va plus vite que l'humanité pratiquement, puis ça l'a beaucoup questionné sur que deviendra justement l'humanité dans quelques années, ce qui est quand même un sujet vraiment d'actualité.
Surtout si on suit comme l'exemple chinois aussi, tu sais, on voit comme les Dust Bowls, puis tous ces endroits-là qui sont abandonnés.
Oui.
Puis,
donc lui, ça l'a vraiment frappé, puis je trouvais que c'était un questionnement aussi qui était vraiment pertinent dans le cadre d'une exposition sur la science-fiction où on peut imaginer justement des futurs possibles.
Ben oui, parce que dans les chefs-d'œuvre de la science-fiction, il y a notamment George Orwell, il y a Aldous Huxley, donc il y a toujours cette projection dans l'avenir, dans une dystopie aussi.
Oui,
là.
Tout à fait. Puis finalement, il fallait aussi qu'on aborde l'intelligence artificielle puis les robots. Puis ça, c'est Flexibé.
Oui, c'est ça, j'allais t'en parler.
Ben en fait, on a demandé à Flexibé de créer un corpus d'œuvres vraiment pour l'occasion. Donc, il a créé 4 dessins. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est carrément mis dans la peau d'un robot qui commence à développer une intelligence artificielle, des émotions humaines, les premières pensées. Puis là, il a divisé ça en 4 semaines. Donc, chaque dessin représente une semaine dans l'évolution de la pensée artificielle. Puis, c'est vraiment super intéressant.
Ça donne quoi, visuellement? La facture change d'un dessin à l'autre?
C'est qu'on connaît, on commence à reconnaître de plus en plus des choses que notre cerveau à nous peut reconnaître comme des lettres, des chiffres, puis à la fin on reconnaît la figure humaine, on peut même presque lire une histoire. Donc c'est toujours un peu très dense là, les dessins de Flexibé, c'est toujours une petite part de chaos aussi à l'intérieur, mais on sent bien la réflexion qu'il a posée. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi.
Puis on a probablement ces dessins de très en noir et blanc, très contrastés,
c'est vraiment
détaillés.
Ça.
D'ailleurs, j'en profite pour dire que Flexibé, c'est Félix Leblanc qui a collaboré à l'aérospatiale. Si vous écoutiez l'émission l'an dernier, vous pouvez peut-être reconnaître le personnage. En terminant, il y a le collectif On est-tu heureux, hein?
Oui, c'est ça, On est-tu heureux.
J'aime vraiment leur nom, hein, parce que c'est vrai qu'on dit « hein » après les phrases.
C'est vrai, exactement, c'est très québécois. Eux autres aussi, les filles, on leur a demandé de créer des œuvres spécifiquement pour l'exposition. Nous, on les a un peu guidés vers le côté des... Nous autres, on voulait aborder les extraterrestres, les ovnis, tout ça. Donc, comme eux travaillent un peu toujours à la frontière de la supercherie puis de la réalité, ça allait bien, tu sais, ça fonctionnait. Donc eux,
ben
dans
oui,
le fond,
c'est ça les extraterrestres, ben, ça, oui. La quantité d'images truquées là, qu'on
ben,
a
c'est
vu,
justement puis... c'est ça, c'est qu'ils sont vraiment inspirés de toutes les sites web, les YouTube, les films que les gens postent sur YouTube, qui sont vraiment là, des fois c'est grossièrement fait, mais il y a les gens répondent, puis tu sais, il y a comme toute une communauté là de d'ufologues amateurs là, ouais, sur le web, puis un peu partout là, ils ont des revues, ils ont des en tout cas, tu sais,
ouais, moi je pense au vieux magazine Inexpliqué aussi, ouais, là, quand j'étais plus jeune.
C'est toujours fascinant là. Moi j'ai perdu une après-midi d'ailleurs dernièrement à aller voir, tu sais, après avoir vu justement la série qu'ils avaient créée, le Dove, je trouvais ça amusant. Donc eux, ils ont joué beaucoup avec ça, puis ils ont été à Vanier en fait. Puis ben ils ont vu des extraterrestres, donc ils ont pris en photo.
OK.
C'est ça.
Ça a l'air assez ironique, hein?
Oui, c'est très amusant.
Eh bien, Geneviève Pelletier, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
L'Autocar des arts visuels fera des sorties à la bibliothèque Gabriel Roy devant la bibliothèque, bien entendu, les 17, 18 et 21 octobre prochains, de 10h30 à 13h30. Donc, si vous passez par le centre-ville, allez-y. Donc, voilà, au-delà des possibles de l'Autocar des arts visuels dans le cadre de Québec en toutes lettres. L'exposition, d'ailleurs, là, il va y avoir d'autres sorties, c'est jusqu'au 6 juin. Là,
oui, c'est ça, c'est pour l'année au complet, donc vous aurez sûrement une occasion de l'avoir près de chez vous.
Et voilà. On s'en va en très courte pause audio, on écoute Kritev versus Ban. Et voilà, c'était une très courte pause. Avant de terminer le calendrier, comme à chaque semaine, jeudi 18 octobre à 17h, il y a le vernissage de l'exposition de Patrick Sternon et de Samuel Breton à la Galerie des arts visuels. Le même soir, à 20h, c'est le vernissage de Marie-André Cormier et Frédéric La Liberté à l'œil de poisson. Vendredi 17h, vernissage de l'exposition Géographie variable, une production de la Chambre Blanche qui est située à Binox. Vendredi également, c'est la nuit des sans-abri et Folliculture fera un abri pour la nuit avec des artistes de Québec. N'oubliez pas, Extase, la vie et autres pratiques extatiques en fin de semaine. Sur ce, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous pour ce début de saison. C'est ma dernière émission parce que, comme je le disais au début, je pars en congé de maternité. Mais certainement que Raymond Poirier et Jean-Pierre Gay feront de très bons remplacements. Et je vous laisse avec Gilles Chaumel et Folk d'Amérique.